À propos du rapport au corps, ou à propos de la sexualité, on entend dans l'histoire de l'Église deux discours opposés. On trouve donc dans l'histoire de l'Église, dans la tradition chrétienne, dirais-je, depuis 2000 ans, on trouve différentes choses. On trouve d'abord parfois une curieuse valorisation de la virginité. Et on parle en effet à ce moment-là de la virginité comme une question de pureté, comme si il y avait un rapport entre la continence sexuelle ou le fait de ne pas pratiquer la sexualité et la sainteté. Cela, on comprend à peu près d'où ça vient. Il y a toujours eu dans l'humanité, et le christianisme n'a pas pu y échapper, on a toujours eu donc où trouver un certain dualisme avec cette idée que je crois très fondamentalement contraire d'ailleurs à l'Évangile, que le corps et l'esprit seraient opposés et qu'il faudrait d'une certaine manière sacrifier le corps pour élever l'âme, comme si le corps lui-même était par nature coupable, par nature mauvais. Je pense que cette tradition chrétienne est, me semble, non biblique en quelque sorte, la pensée biblique étant plutôt que le corps est une création de Dieu. Et fondamentalement, la pensée biblique nous dit que la création n'est pas mauvaise, mais qu'elle est bonne, même si elle a besoin d'être sanctifiée. C'est-à-dire que la création est faite en 6 jours, et il y a le 7e jour qui est le jour de la sanctification. Donc la création n'est pas un but ultime, elle n'est pas une perfection consacrée en elle-même, mais c'est néanmoins quelque chose de bon qui a besoin d'être sanctifié, mais en tout cas, la sanctification ne dit pas l'annulation. Et donc, paradoxalement, on trouve aussi dans le discours de la tradition de l'Église chrétienne le contraire, c'est-à-dire une sorte de valorisation de la fécondité, comme si avoir le plus d'enfants possible était un signe de bénédiction. En langage d'Église, on dit qu'il faut accueillir tous les enfants que Dieu donne. Et à ce moment-là, on trouve une valorisation de la mère de famille, avec ses nombreux enfants, une valorisation de la famille nombreuse, et cela donc est existant également dans le discours de la tradition chrétienne. C'est assez mystérieux cette opposition, je dirais, entre ces deux discours, l'un qui valorise la fécondité, la famille, et donc la sexualité, puisque ça a été pendant longtemps en tout cas le seul moyen de faire des enfants, et puis, d'un autre côté, la valorisation de la chasteté et de l'abstinence de toute relation sexuelle. Curieusement, ce paradoxe se trouve aussi dans la piété populaire, et en particulier, ce paradoxe est résumé par lui-même dans une image de piété de la tradition chrétienne, qu'est la Vierge Marie. Et le thème de la Vierge Marie reprend, je dirais, cette contradiction, puisqu'elle est justement à la fois vierge et mère, ce qui a priori semble absolument impossible. Ce que les mauvaises langues prétendent, c'est que la théologie chrétienne, je dirais post-biblique, a été faite essentiellement par des hommes, et que les hommes ont toujours, je dirais, un double fantasme, deux idéaux féminins a priori inconciliables, l'un qui est celui de la Vierge, jeune, belle et pure, et celui de la mère de famille, peut-être un peu moins jeune et un peu moins belle, mais établie, féconde et fidèle. Et voilà que, dans l'impossibilité d'avoir les deux à la fois, eh bien, la tradition chrétienne a mis justement ces deux choses dans la même personne, c'est-à-dire dans la Vierge Marie, qui représente une sorte d'oxymore, je dirais inatteignable, une sorte de mythe imaginaire qui permettrait de rassembler en une seule personne ces deux fantasmes masculins. Mais je crois que le problème là-dedans, nous le voyons, c'est lorsque l'être humain, au lieu d'être à l'écoute de la parole de Dieu, se crée une religion pour répondre à ses propres fantasmes. Et là, il y a évidemment un danger, et c'est pourquoi je pense qu'il faut absolument revenir à l'Écriture et abandonner nos propres fantasmes qui vont soit dans un excès, soit dans l'autre, pour essayer de retrouver ce que l'Écriture elle-même veut nous dire. Dans l'Ancien Testament, la chose est assez claire. Il n'y a, à ma connaissance, dans l'Ancien Testament, aucune valorisation de la chasteté ou du célibat. Au contraire, il est évident que dans l'Ancien Testament, le fait d'avoir des enfants est vu comme une bénédiction de la part de Dieu et le fait de ne pas en avoir comme une malédiction. Et tout le problème de bon nombre de personnages de l'Ancien Testament, c'est d'abord de trouver une épouse ou un époux et ensuite d'avoir le moyen d'avoir des enfants. On trouve ça dans les psaumes, en particulier dans les psaumes des montées, à partir du psaume 120, quand le psaume dit que la femme heureuse est assise au milieu de ses enfants nombreux sont comme autant de plants d'olivier, et dit le psaume, c'est ainsi que l'Éternel donne sa bénédiction, etc. Et donc cela, c'est vrai, et on trouve à l'opposé l'histoire d'Onan, le célèbre fondateur de l'onanisme, qui est condamné par la Bible parce que justement, il répandait sa semence à terre pour éviter de faire des enfants. Et pour la mentalité de l'Ancien Testament, c'était considéré comme un péché absolument épouvantable. Et donc, dans l'Ancien Testament, il est clair que c'est la fécondité qui est valorisée et que la sexualité n'y est absolument pas condamnée ni dévalorisée, sauf quand elle se pratique au détriment de justes relations, comme effectivement dans l'adultère ou dans la violence ou d'autres choses. Mais que même dans des situations limites, curieusement, l'Ancien Testament valide même des comportements un peu limites dans la mesure où il s'agit d'assurer la descendance et pour la fécondité et pour la survie de la race. Dans le Nouveau Testament, la chose est plus complexe parce que je crois que le Christ, dans son discours, ne se situe pas au niveau de la fécondité ni à celui de la sexualité. Mais l'Évangile nous dirait plutôt, enfin c'est ce que je veux y lire, que la chasteté ou la fécondité charnelle n'ont rien à voir avec la question du royaume de Dieu. C'est-à-dire que le sujet de l'Évangile est absolument d'un autre ordre que celui-là. C'est dit explicitement par le Christ lui-même quand il dit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire ou le manger, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est l'amour, la fraternité, le service, toutes ces valeurs de l'esprit, toutes ces valeurs évangéliques, et donc le royaume de Dieu n'est pas le boire et le manger. » Et comme le Christ le dit lui-même dans l'Évangile, il dit le corps est plus que le vêtement et la vie elle-même est plus que le corps, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des bêtes, non pas pour dire que nous devons renier cette appartenance physique et matérielle, mais pour dire que nous sommes plus que cela. Et ce qui intéresse l'Évangile, c'est justement ce plus, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que nous sommes plus que des bêtes et non pas, comme s'il n'est pas du tout l'idée qu'il faudrait être autre chose ou renier cette dimension charnelle et corporelle qui est la nôtre. Et j'aurais aimé donc qu'on ne trouve dans l'Évangile que ce genre de passage. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger, ce n'est pas la sexualité, mais c'est la justice et la paix. J'aurais aimé qu'on ne trouve que cela et que le Christ, effectivement, ne se mêle pas de ces choses purement terrestres et montrant la séparation des deux règnes et en disant que le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait de faire ou de ne pas faire l'amour avec quelqu'un, mais c'est plutôt dans la manière de le faire. Que le royaume de Dieu, c'est dans le type de relation que nous avons avec les gens. Et nous avons des relations par la parole, nous avons des relations par le regard et aussi des relations par le corps. Et que ce qui intéresse l'Évangile, c'est la manière avec laquelle l'autre est considéré dans ces relations. Et donc il aurait été bien que le Christ en reste à cela, en disant que l'essentiel c'est le respect, le pardon, l'accueil, etc. Et malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que le Christ s'est mêlé de cette question-là. Et il existe un passage, comme je vous l'ai fait entendre en Matthieu 19, Un passage où le Christ parle justement de mariage, de divorce. Et il a une phrase curieuse à propos de ceux qui se font eunuques pour le royaume de Dieu et dont on a l'impression qu'il le valorise. Et donc il faut reprendre un petit peu plus en détail, essayer de comprendre ce qu'il en dit. La première chose intéressante que je remarque en passant, c'est que dans ce passage, il ne semble pas que le Christ condamne absolument le divorce. Il dit simplement, bien sûr que ça n'est pas bien, mais néanmoins, il l'envisage. Ce qui est déjà, je dirais, une certaine ouverture qui est assez importante et qu'il est bien de signaler parce que les églises ont parfois été plus rigoureuses, je dirais, que cela. Ce que Jésus dit ensuite à propos du mariage et du divorce, c'est que, dit-il, ça n'est autorisé ou ça n'est envisageable qu'à cause de notre imperfection fondamentale. Parce que, dit-il, il n'en était pas ainsi dans les commencements. Cela veut dire que dans l'idéal absolu de la pensée première de Dieu, quand il crée l'homme et quand il a un projet pour l'humanité, son projet, ce n'est pas que l'on change à son gré de mari ou de femme, mais, dit-il, à tort ou à raison, mais comme je suis chrétien, je pense à raison, son projet, c'est de dire que l'idéal, c'est ou ce serait de rester fidèle toute sa vie au même conjoint. Mais, dit-il, à cause de la dureté de votre cœur, il a bien fallu envisager quand même des alternatives. Et par conséquent, personne ne peut prétendre à être parfait, aucune vie ne peut être absolument idéale, et donc, il faut bien l'assumer en quelque sorte. Par conséquent, je dirais que le Christ a là une attitude assez intéressante, parce qu'à la fois, il ouvre la porte sur le fait de ne pas être justement idéal, mais en même temps, il ne banalise pas. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « Oh, écoutez, je m'en fiche, mariez-vous, divorcez, séparez-vous, ayez une femme, deux femmes, trois femmes, cinq maris à la suite les uns des autres. Tout cela, ça n'a aucune importance parce qu'on fait comme on peut. » Il dit non, il y a quand même un idéal très fondamental qui est la fidélité à vie. Maintenant, dans l'existence, on fait un peu ce qu'on peut. Et l'important ensuite, c'est la manière de se séparer. Et là, il valide la loi de Moïse qui disait qu'il fallait donner une lettre de divorce. Et ça, c'est intéressant parce que dans l'Antiquité, avant la loi de Moïse, apparemment, un homme pouvait répudier sa femme selon son bon vouloir. Et il disait, toi, allez, tu t'en vas, j'en ai assez. Et Moïse a dit, ça ne se passe pas comme ça. Pour répudier quelqu'un, il faut lui écrire une lettre. Il faut que ça se fasse dans l'ordre, dans la règle, en quelque sorte. Et il faut que si vous ne voulez plus de votre épouse, que vous puissiez lui rendre effectivement sa liberté. Et donc, il y a bien l'idée que ça doit se passer dans un ordre, dans une règle qui permet de protéger l'autre, en quelque sorte, et de faire en sorte que cela ne se passe pas n'importe comment. De même, la question des disciples, c'était de dire, est-ce que je peux répudier ma femme pour n'importe quel motif ? Réponse du Christ, mais non, pas pour n'importe quel motif. Le mariage est quelque chose de sérieux, et il faut des raisons sérieuses, dirais-je, pour le rompre. Et ainsi, on ne peut pas disposer de l'autre en fonction de son propre plaisir. On a une responsabilité. D'ailleurs, le mot se trouve dans le texte. C'est Pierre, je crois, qui dit « Si donc, ainsi est la responsabilité de l'homme ». Il a donc bien compris quelque chose de fondamental, c'est qu'on est responsable. Et là-dessus, j'aime particulièrement, je dirais, la pratique de nos églises de la Réforme, qui à la fois font bien des engagements aux mariés, qui sont des engagements à vie. On ne dit pas aux jeunes mariés « Voulez-vous prendre pour mari ou pour femme un tel ou une telle jusqu'à ce que vous ayez l'idée de vous séparer ?» Mais « Voulez-vous prendre pour mari ou pour femme pendant toute votre vie ?» Et donc l'idéal est affirmé et en même temps, nous acceptons de remarier les divorcés. Et autre chose essentielle, c'est dans la liturgie encore de mariage protestante où le mot de conclusion du pasteur n'est pas de dire « Vous êtes ainsi engagés l'un vis-à-vis de l'autre », mais on dit « Vous êtes ainsi responsables l'un de l'autre ». Et je crois que l'éthique de la responsabilité est infiniment plus évangélique que le fait d'essayer de mettre un verrouillage sur les gens en disant « Vous avez fait des vœux, vous êtes tenus par vos vœux ». On est tenu, non pas par un vœu, mais on est tenu par la responsabilité que l'on a vis-à-vis de quelqu'un. Et quand on accepte de rentrer dans une relation avec quelqu'un, eh bien, on est responsable de cette personne que l'on a entraînée avec soi, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, s'il y a des manières, je dirais chrétiennes, de vivre le mariage, ce que je crois, c'est d'ailleurs le sens, une fois de plus, des mariages religieux pour nous protestants, puisque vous savez que les protestants disent que, dans le fond, le mariage ne se fait pas tellement à l'Église. Il se fait en trois étapes. Il se fait d'abord dans le cœur des intéressés, qui se promettent, cœur à cœur, fidélité et de vivre ensemble. Il se fait ensuite socialement à la mairie, où il y a un engagement social de vivre comme une communauté familiale au sein de la société. Et le mariage au temple est là pour exprimer la manière avec laquelle on veut vivre ce mariage. Ça veut dire que l'on ne refait pas au temple les engagements de la mairie, mais simplement on en rajoute d'autres. Parce qu'à la mairie, on ne promet pas de vivre avec son conjoint dans la vérité, on ne promet pas de l'aimer, on ne promet pas de le respecter, on ne promet pas de l'encourager. Et ici au temple, eh bien, on promet cela. C'est-à-dire qu'on est dans la manière de vivre chrétiennement. Et je dirais que s'il y a une manière chrétienne de vivre son mariage, peut-être faudrait-il dire qu'il y aurait aussi une manière chrétienne de se séparer. Bon, ça c'est plus difficile évidemment parce que dans les séparations, les passions s'exacerbent, chacun perd une partie de son bon sens et donc la chose est complexe et je crois qu'il ne faut pas juger ni de l'extérieur ni même un peu trop de l'intérieur. Mais néanmoins, certainement, y aurait-il moyen de tout faire pour agir d'une manière évangélique ? Alors la réponse des disciples devant, je dirais, cette responsabilité énorme qui est mise par le Christ en disant il y a un idéal et il y a une responsabilité très fondamentale vis-à-vis de l'autre, la réponse des disciples c'est de dire « Oulala, si c'est une chose sérieuse, si sérieuse, et si on ne peut pas, je dirais, faire n'importe quoi vis-à-vis de l'autre ni répudier facilement son conjoint, alors, disent les disciples, il est peut-être préférable de ne pas se marier du tout. » Et là, nous avons l'énigmatique réponse de Jésus. « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Parole qui semble valoriser le célibat et qui a été utilisée comme telle pour valoriser, dans la tradition chrétienne, le célibat. Et ensuite, il va encore plus loin en disant « Vous savez, il y en a qui sont eunuques de nature et il y en a qui se font eunuques pour le royaume de Dieu. » L'interprétation de ce genre de passage la plus simple, la plus simpliste serait de dire « Eh bien, par conséquent, à certains, il est donné d'être capable d'accéder à une sorte de niveau supérieur qui serait le célibat et la chasteté, mais que tout cela n'est pas donné à tout le monde. » Ce qui semble dans ce texte à première lecture, c'est de dire que il est formidable que certains, pour Dieu, puissent renoncer au mariage ou pour Dieu, puissent renoncer à avoir une vie sexuelle, mais que ça, c'est pas pour tout le monde, c'est un peu le summum, en quelque sorte. C'est une interprétation possible, mais je crois qu'elle est fausse. Et cela pour des raisons de cohérence, à la fois par rapport à l'Évangile et par rapport au texte lui-même. Le premier indice qui montre que cette interprétation pour moi est fausse, c'est que le Christ semble être d'accord avec ce que dit Pierre. Quand Pierre dit « Si telle est la responsabilité de l'homme, il est préférable de ne pas se marier. » Ça me semble impossible. Parce que le Christ ne peut pas être d'accord avec un raisonnement aussi égoïste de la part de Pierre. Comment le Christ pourrait dire « C'est vrai, puisqu'on ne peut pas divorcer, autant ne pas se marier. » C'est-à-dire que c'est uniquement une question de confort personnel, en quelque sorte, qu'exprime là l'apôtre. Et par conséquent, je ne vois pas comment le Christ pourrait acquiescer dans ce sens. La seule solution, c'est de dire que ce que signifiaient les disciples, c'est de dire que l'exigence est tellement forte que peut-être vaut-il mieux ne pas se marier pour ne pas risquer de transgresser. Et ça, c'est une bonne question. Et le Christ refuse de répondre à cette affirmation. Il dit juste, ça dépend des gens. Dans le langage de l'époque, dire « ça dépend des gens », cela veut dire « il n'est pas donné à tout le monde de comprendre cela ». Et ce qu'il dit, c'est que considérer que la conséquence de cette exigence est d'éviter de se marier, ça dépend des gens, parce que peut-être effectivement que certains, sachant qu'ils seront de toute façon incapables de vivre cela correctement, peuvent choisir de s'en priver. C'est-à-dire que ce que le Christ valide, ce ne serait pas des propos égoïstes des disciples, mais plutôt une sorte de générosité qui consisterait à dire, si jamais vous considérez, vous, que vous êtes incapable de vivre le mariage dans le respect de l'autre, et si vous pensez que fondamentalement vous ne tiendrez jamais votre parole et que vous ne ferez que du mal à celui avec qui vous vous mariez, eh bien, il est peut-être préférable de ne pas vous marier du tout. C'est-à-dire que du coup, on ne regarde pas par rapport à soi, mais par rapport à l'autre. Et ça, c'est le cœur du message évangélique. C'est l'amour, la responsabilité, et ce n'est pas la modalité d'application. Et dans cette optique, la question des eunuques devient également claire. Je vous ai dit, le royaume de Dieu, c'est le monde spirituel. Et le royaume de Dieu, ce n'est absolument pas le fait d'être marié ou d'être célibataire. Mais le royaume de Dieu, c'est l'amour, la paix, le service, le respect de l'autre. Et la question, c'est donc de savoir dans quelles circonstances dans ma vie je serai en mesure d'optimiser le respect de l'autre. Et donc de dire, eh bien peut-être que je vais éviter de me mettre dans des situations où je sais fondamentalement que je ne pourrai pas respecter l'autre et où je risquerai de lui faire du mal. Et donc la sexualité, ce n'est pas en soi une chose du royaume de Dieu. Le Christ lui-même le dit à propos des anges en Matthieu 22, il dit « À la résurrection, les hommes ne prendront pas femme ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans le ciel. » Et donc la sexualité, c'est de l'ordre du terrestre, c'est comme le boire et le manger. Ça ne peut ni aller pour ni aller contre une quelconque vocation spirituelle. Il n'y a aucune valeur spirituelle en tant que telle au célibat, ni à la fécondité, ni au fait d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Il n'y a pas d'infériorité ou de supériorité spirituelle de celui qui est marié ou de celui qui, pour une raison ou pour une autre, est resté célibataire. Mais le céleste, je vous disais, c'est la manière avec laquelle on vit dans ce monde. Le royaume de Dieu, c'est l'amour fraternel, c'est le respect mutuel. Et c'est peut-être au nom de cela que certains peuvent préférer ne pas se marier ou ne pas avoir d'enfants parce qu'ils ont une vie ou une attitude qui leur semble incompatible avec le fait d'assumer la responsabilité, justement, qui leur serait ainsi donnée. Celui qui sait qu'il ne pourra pas rester fidèle peut choisir de ne pas se marier pour ne pas faire souffrir sa femme. Celui qui sait qu'il sera toujours incapable de s'occuper d'enfants, eh bien aura la responsabilité et la générosité de dire « il est peut-être préférable que je ne fasse pas des quantités d'enfants dont je ne m'occuperai pas ou que je serai incapable d'aimer ». Celui qui sait que sa vie sexuelle pourrait faire souffrir des gens peut choisir d'y renoncer, non pas parce que ça le ferait s'élever spirituellement, mais pour sauver les valeurs du royaume de Dieu. Et du coup, ça me rapproche d'un autre passage dans Matthieu 5, un peu compliqué, mais quand Jésus dit « Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Et si ton bras est pour toi une occasion de chute, eh bien coupe-toi ton bras et jette-le loin de toi, parce qu'il est préférable d'entrer manchot dans le royaume de Dieu que de ne pas y entrer. » Bon, là c'est pareil. Je ne pense pas qu'il y ait une valorisation spirituelle des manchots, et qu'il faudrait dire, ah ben, on va engager comme pasteur que des gens manchots ou que des gens borgnes, parce que Jésus a dit que c'était bien spirituellement bien plus élevé. Mais il s'agit d'une image, comme là pour la question des eunuques ou des célibataires, c'est que peut-être que si l'on sait que nous avons une faiblesse, le Christ ne demande pas de n'avoir aucune faiblesse, mais je dirais de connaître ses faiblesses et de se débrouiller dans sa vie pour que nos faiblesses ne nuisent pas aux autres. Et par conséquent, eh bien oui, je vais, moi, me limiter d'une certaine manière, ou me priver de certaines choses, parce que je sais que dans telles circonstances, je ferai du mal aux autres. Et ça, c'est effectivement la chose la plus essentielle, qui est de l'ordre du royaume, parce que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, et nous devons considérer ces réalités comme les choses les plus précieuses de notre existence, ce à quoi nous tenons, même plus qu'à la prunelle de nos yeux, et certainement que nous devons être prêts à faire des sacrifices matériels et même personnels pour optimiser, je dirais, la relation positive que nous pouvons avoir avec les autres. Donc finalement, je crois que notre passage n'est pas plus un commandement concret à propos des yeux ou des bras qu'il faudrait s'arracher que à propos du fait d'être célibataire ou d'être chaste sexuellement, mais nous montre simplement la hiérarchie des valeurs que nous devons avoir dans l'existence et qui doit primer, ce qui doit diriger nos décisions. Alors si la sexualité donc n'est considérée que sous son angle d'un propre plaisir égoïste, alors oui, il y a danger. Si elle est vécue avec le sens de sa propre responsabilité, ou plutôt sous l'angle d'un lieu où je peux vivre, dans ma relation à l'autre, les réalités du royaume, alors là, je suis dans l'essentiel. Et ainsi, il est vrai que ce n'est pas le boire et le manger, ni, je dirais, le coucher, qui est le royaume de Dieu, mais c'est la justice et la paix. Et il faut que les choses ne s'opposent pas les unes aux autres, mais je crois que l'Évangile est une question de hiérarchie. Et donc il n'y a pas de dire qu'il faudrait sacrifier le corps pour élever l'âme, mais il faut que l'âme sanctifie le corps et que l'âme, justement, gouverne le corps en quelque sorte. Ni pour dire que le corps devrait être livré à ses propres lois en disant « Faites autant d'enfants que vous pourrez, ne vous en préoccupez pas, ne régulez rien », ni pour dire maîtrisez le corps et bridez-le, empêchez-le de vivre ce qu'il a à vivre, mais de dire il y a une chose qui prédomine, c'est l'amour, la relation à l'autre, le service, le respect de l'autre et le sentiment de notre propre responsabilité. Et à partir de là, le corps, il est au service, il a le droit d'exister parce qu'il est saint par nature et il est appelé à être sanctifié. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, nous dit encore le Christ. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données comme en plus. Amen.